L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger.
L'affaire Dreyfus éclate en fin 1894, lorsque on s'aperçoit à l'état-major qu'il y a un espion français qui travaille sans doute pour l'Allemagne, parce qu'une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, payée naturellement par les services secrets français, faisait les poubelles des officiers allemands et a découvert des textes écrits en français et qu'on analyse comme venant d'un officier français de l'état-major. Immédiatement, l'état-major soupçonne le capitaine Dreyfus, parce qu'on parle de quelqu'un dont l'initiale commence par un D. On fait des examens d'écriture, ils ne sont pas très probants, mais il y a des experts qui disent « c'est l'écriture de Dreyfus à qui on a fait faire une dictée ». Et Dreyfus est immédiatement inculpé d'espionnage. Il est traduit devant une juridiction militaire qui le condamne à déportation à l'île du Diable et il est dégradé en décembre 1894. À l'époque, personne ne bouge, sauf les antisémites du style Barès qui dit que Dreyfus soit coupable. Je le déduis de sa race. Bon, voilà qui est clair. Mais l'opinion ne bouge pas, les Juifs non plus, puisqu'ils considèrent, ma foi, que si l'état-major et la justice militaire dit que Dreyfus est un traître et un espion, bah, c'est qu'il doit l'être, point. Les seuls qui bougent, au début, c'est la famille de Dreyfus, sa femme Lucille, son frère Mathieu, qui sont persuadés de l'innocence de Dreyfus, et Dreyfus, également, ne cesse de clamer son innocence. Pourquoi aurait-il fait ça? Ça n'a pas de sens, puisque les espions, généralement, ça travaille pour de l'argent. Lui, il n'a pas de besoin d'argent, il vient d'une famille alsacienne plutôt aisée, et d'autre part, il a quitté avec sa famille l'Alsace quand elle est devenue allemande en 1870 pour rejoindre la France. Donc, il est difficile d'imaginer que ça soit un espion à la solde de l'Allemagne. Néanmoins, il est condamné et il se morfond après sa dégradation en public. Il se morfond à l'île du Diable au large de la Guyane où il est mis à l'isolement. Peu à peu, quand même, la famille de Dreyfus réussit à convaincre plusieurs personnes de l'innocence d'Alfred Dreyfus. C'est le cas de Bernard Lazare, un des rares juifs qui va militer pour Dreyfus, parce que les autres restent quoi, pour la plupart d'entre eux, en disant pas de vague, s'il est coupable, ben, il a que ce qu'il mérite, s'il n'est pas coupable, l'innocence de Dreyfus éclatera le moment venu, mais pas de vague, sinon ça va encore déclencher l'antisémitisme. Bernard Lazare, lui, dit non, il faut faire connaître la vérité et faire savoir que Dreyfus est innocent. Une autre personne, deux, trois autres personnes sont convaincues, le vice-président du Sénat, Scheurer Kestner, et puis quelqu'un de l'état-major, le lieutenant-colonel Picard, qui n'aime pas les Juifs, hein, faut le savoir, on fait de Picard parfois un héros, il n'aime pas les Juifs, mais pour lui, Dreyfus est innocent. Et il va se retrouver dans la situation de beaucoup de gens qui n'aiment pas les Juifs, mais qui considèrent qu'on n'a pas le droit de punir un innocent. Donc on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples, notamment en 1897, et au début 98, Émile Zola est convaincu de l'innocence de Dreyfus, et va publier un article dans le journal de Clémenceau, L'Aurore, pour dire « j'accuse ». Et il accuse tout le monde de couvrir une forfaiture, puisqu'on punit un innocent. Peu à peu, la gauche va être convaincue de l'innocence de Dreyfus, c'est le cas de Jaurès et de la plupart des socialistes. Beaucoup ne veulent pas bouger parce que, comme Jules Gued, ces socialistes disent « Attendez, c'est une affaire qui ne concerne pas le prolétariat, c'est une affaire de bourgeois, il y a des bourgeois qui s'en prennent à Dreyfus, il y en a d'autres qui le défendent, ça ne nous concerne pas, nous les prolétaires. » Jaurès dit non, il faut faire éclater la vérité et Dreyfus est innocent. La France est coupée en deux. L'affaire prend des proportions graves quand on s'aperçoit qu'il y a eu des faux qui ont été commis dans cette affaire, qu'on n'a pas, au moment du procès, donné à Dreyfus les pièces qui l'accusaient, donc il n'a pas pu se défendre correctement. Et le colonel Henry, un des principaux accusateurs de Dreyfus, a reconnu qu'il avait fait un faux dans l'intérêt de la France. Il est enfermé dans une cellule au Mont-Valérien et là, il se suicide. À partir de là, la France est coupée en deux. D'un côté, des nationalistes de droite qui disent « l'armée ne peut pas se tromper, il faut défendre l'armée ». Il y a des antisémites parmi eux, beaucoup, mais il n'y a pas que des antisémites. Il y a des gens qui tiennent ce raisonnement sans être antisémites. Et il y en a d'autres, de l'autre côté, qui disent « non, il faut faire éclater la vérité et la justice ». Et il y a même parmi eux des gens qui n'aiment pas du tout les juifs. Alors l'affaire continue, le président du conseil Waldeck Rousseau demande à ce que Dreyfus soit rejugé et la cour de justice militaire admet qu'on doit réviser le procès. Il y a un nouveau procès qui a lieu en 1899 et Dreyfus est condamné à 10 ans de prison parce qu'on lui a reconnu les circonstances atténuantes. C'est un non-sens. Où il est coupable, il doit être puni, où il est innocent, il doit être libéré, mais les circonstances atténuantes dans une affaire de ce type, on ne comprend pas. Finalement, pour mettre un terme à tout ça, le président de la République gracie Dreyfus, et ce n'est qu'en 1906 que Dreyfus sera réhabilité, la Cour de cassation ayant reconnu son innocence. Donc cette affaire, pendant 8 ans, a empoisonné l'ensemble de la vie politique française et a causé beaucoup de torts et beaucoup de dommages, non seulement à la vérité et à la justice, mais aussi aux Juifs de France. Et à partir de là, il va y avoir une coupure entre les Juifs, ou une partie d'entre eux, et la France.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma sœur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle-maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir boulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait ses jambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait sa tête de veau. Ma sœur, son chocolat. Et ma fille, ses œufs sur le plat. Gais et content, nous étions triomphants en allant talonchant, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. De Longchamp, on foule la pelouse, et puis on commence par s'installer. Je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup, l'on crie « Vive la France !» Ça y est, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qui aime les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains, en regardant les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris, en luquant les spahis. Moi, je ne cessais de crier « Vive le général Boulanger !» Gais et content, nous étions triomphants de nous voir à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous venions fêter, voir et complimenter l'armée française. Pour retour, j'invite quelques militaires à venir se rafraîchir un brin. Mais à force de licher des verres, ma famille avait son petit grain. Je quitte le bras de ma belle-mère, je prends celui d'une cantinière. Bref, le soir, lorsque nous rentrons, nous étions tous complètement ronds. Ma sœur qui était en train ramenait un fantassin. Ma fille qui avait son plumet sur un cuirassier s'appuyait. Ma femme sans façon embrassait un dragon. Ma belle-mère au petit trot galopait au bras d'un turco. Gais et content, nous étions triomphants en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous avions fêté, vu et complimenté l'armée française.
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Ringer la semaine prochaine.